Vous écoutez France Inter, il est 18h16.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir un homme qui préfère voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est sa nature, son côté optimiste, peut-être aussi une déformation professionnelle pour celui qui a choisi il y a plus de 40 ans de vivre à la campagne, au soleil et de s'intéresser à nos loisirs, aux vacances et au temps libre, bref, au bon côté des choses. Le sociologue Jean Viard, directeur de recherche au CNRS et Vipof, est notre invité ce soir. Avec lui, nous reviendrons sur l'actualité de la semaine avec bien sûr en point d'orgue la démission de Nicolas Hulot, mais pas seulement. On parlera aussi des annonces budgétaires du gouvernement et des futures élections européennes, des sujets qui devraient l'intéresser, lui, qui a largement soutenu Emmanuel Macron aux dernières élections. Au sommaire de cette émission préparée par Irène Menahem et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, un reportage de Sébastien Sabiron sur le patronat de l'hôtellerie-restauration qui demande à pouvoir embaucher les migrants, demandeurs d'asile et réfugiés, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur. Et puis, évidemment, le retour des bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, un nouveau sport qui consiste à courir en ramassant tout ce qui traîne. Bref, le ménage en courant, ça s'appelle le plogging. À 19h20 au téléphone sonne, question sur un secteur florissant, le tourisme. La France serait même championne du monde de la spécialité. On verra quelle est la réalité des chiffres. S'il est vraiment raisonnable également d'envisager de recevoir 100 millions de visiteurs par an d'ici 2 ans. Si la France a les moyens de ses ambitions, on parlera aussi du revers de la médaille, du tourisme de masse et de ses conséquences, notamment sur l'environnement. Vous pouvez nous appeler en tout cas pour poser toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Jean Viard.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, d'avoir quitté votre Vaucluse, vos cigales, pour venir passer ces...
C'est fini les cigales.
Oh, ces 2 heures à Paris avec nous, ce jour de, dernier jour du mois d'août. On s'est dit que à la veille de la rentrée, c'était le bon moment pour convier quelqu'un qui est spécialiste du temps libre. Alors, on va peut-être commencer par là, par ces vacances dont on sort à peine. Dites-nous, quelle est la réalité de ces vacances qui seront bientôt derrière nous? On entend souvent dire que les Français sont les champions du monde des vacances. C'est vrai ou c'est faux?
C'est pas si vrai que ça. Il y a une culture européenne, si vous voulez, en matière de vacances, qui s'est petits amis construite. Il y a une culture qui se développe en Chine, qui est aussi très intéressante. Après, c'est vrai que des pays comme les États-Unis ou le Japon n'ont pas le même rapport aux vacances que nous. Hein. C'est plus perçu comme un cadeau, ou alors vous pourrez décider de partir en vacances, mais votre patron ne peut pas forcer de vous payer. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes modèles. Mais c'est vrai que chez nous, si vous voulez, vous savez, toutes les sociétés vivent avec 2 temps et 2 espaces. Avant, il y avait le carême et puis le reste de l'année, il y avait les carnavals et puis il y avait les fêtes religieuses et le monde laïque. Et puis nous, on a inventé dans le monde moderne, au fond, les vacances qui sont à la fois un culte du corps, de l'amour, du patrimoine, de la culture. Et on en a fait, attendez, il y a 1,2 milliard d'hommes qui ont franchi une frontière cette année pour aller visiter un autre pays. Il y avait 60 millions en 68. Donc si vous voulez, c'est devenu, alors ça peut poser des problèmes écologiques et tout, mais les hommes sont en train d'aller voir les hommes. C'est ça qui se passe. Et pour moi, c'est ça qui me fascine, si vous voulez. Je sais très bien les problèmes que ça pose. Moi, je vais vous dire, quand je vois des Chinois dans mon village du Luberon, ben en fait, je suis ravi, quoi. Parce que quand j'étais enfant, ben ça n'existait pas. Quand il y avait un Parisien à 75, c'était, on se moquait de lui. Et maintenant, il y a des Chinois. Alors, on ne comprend pas très bien ce qu'ils cherchent à voir. Vous voyez, ils sont rentrés chez mon ami qui est boucher. Et ils ont photographié toutes ces saucisses. On ne sait pas exactement pourquoi.
Ils photographient des tas de choses.
Mais donc, pour eux, ils étaient ravis, ils rigolaient. Oui, lui, il a trouvé ça plutôt marrant. Et donc, c'est pour vous dire que non, c'est passionnant ce qui se passe. Ça montre bien qu'il n'y a pas que la montée des populismes. Il y a aussi les hommes qui se rassemblent. Il y a les deux mouvements.
Jean Viard, pour en revenir aux Français, est-ce que notre façon à nous de prendre des vacances a changé? Est-ce qu'il y a eu des évolutions?
Mais si vous voulez, le tourisme, comme il n'arrête pas d'augmenter le nombre de clients, on va dire pour les clients clients ou de passage d'usagers, on invente sans arrêt des choses. On a commencé par la mer du Nord, après la mer du Sud, après on a inventé la neige, après on a inventé les festivals après-guerre, après on a inventé le tourisme urbain, après on a inventé les parcs. Alors, ce qui se passe en ce moment, il y a peut-être un peu plus de gens qui vont à l'étranger, mais ça, c'est lié au prix. On va moins au Maghreb, ça, c'est lié aux guerres. Donc, il y a des évolutions de ce style. Et l'autre phénomène, c'est que, comme les transports ont baissé en coûts, ce qui renvoie au débat précédent, ben, on a tendance à partir plusieurs fois, moins longtemps. Mais après, ça dépend des groupes sociaux. Il y a 30% des Français qui ne partent pas. Il y a 30% des Français qui partent 4 ou 5 fois une semaine. Et puis, c'est ceux qui ont aussi des résidences secondaires. Et puis, il y a 30% des Français qui partent l'été, la bonne année 15 jours, la mauvaise année 10 jours. Et la très bonne année, bah, ils se font un petit week-end d'amour en septembre, en contre-rythme, en hiver, si vous voulez. Voilà. Pour vous dire, il y a trois groupes quand même très différents. Et puis, dans les milieux populaires, les jeunes de banlieue, tout ça, ils partent pas. Donc, si vous voulez, la démocratisation est pas terminée.
30%, c'est ce que j'allais vous dire, de Français qui ne partent pas du tout. C'est beaucoup.
Non, mais c'est-à-dire, c'est toujours pareil. La démocratisation, elle a augmenté jusqu'aux années 80. On est arrivé de 10, 20%, 30%, 40%, etc. Et puis, il y avait les colonies de vacances. C'était 4 millions. Maintenant, c'est moins d'un million. Donc, si vous voulez, la société a changé. On a peur d'envoyer ses gamins. On n'a pas envie qu'ils aillent avec les autres.
Qu'est-ce qui s'est passé avec les colonies de vacances?
Mais c'est la société qui est fracturée. On n'a pas envie que les enfants aient avec les enfants des autres. Et puis, d'un autre côté, on a, nos villes sont beaucoup mieux équipées. Il y a des plaines de jeux. Donc, il y a des choses à faire. Et puis, il y a des colonies de vacances, j'allais dire, pour riches. On apprend à faire du cheval. On apprend le japonais, etc. Forcément, c'est plus cher. Mais puis, on a fait les campagnes anti-été chaud, qu'a mis en place Gaston Defer il y a bien longtemps. Mine de rien, excusez-moi, ça marche. Je veux dire, nos banlieues les plus pauvres se calment. Enfin, nous, quoi, n'explose plus l'été. Il y a aussi la drogue qui permet de calmer. Mais de fait, il n'y a plus d'explosion depuis plus de 10 ans. Donc, il y a tout ça qui existe. Donc, au fond, tout ça se mélange. Voilà. Mais donc, si vous voulez, disons que la démocratisation n'est pas terminée. Il faut la relancer.
Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer à ce niveau-là.
Mais bien sûr que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Vous voyez, par exemple, moi, je me bats tout le temps pour que, à 16 ans, tous les gamins visitent la France. Parce que je pense que c'est important pour qu'ils se sentent français. Moi, je pense qu'on est français si on connaît la France. Bon, on leur dit toujours, t'es pas français, mais le mec, il est jamais sorti de son quartier. Alors, on sait quoi être français dans ces cas-là. Mais en plus, je pense, si vous voulez, que le voyage, ça s'apprend. Après-guerre, les comités d'entreprise, les syndicats, les organisations catholiques, les professeurs, les chantiers de jeunesse, même pendant la guerre. Mais la résistance a joué un rôle aussi dans l'apprentissage du voyage. Je veux dire, il y a des tas de raisons.
Et il y avait un brassage social.
Et puis, il y avait le service militaire. Je veux dire, les garçons voyageaient. Donc, si vous voulez, ils apprenaient à prendre le train et tout. Après, ils avaient un savoir-faire qu'ils voulaient transmettre dans leur couple. Moi, j'étais prendre le train, moi, etc. Et donc, si vous voulez, il faut continuer cet apprentissage. Il faut se dire que le voyage intègre. On est dans un monde de mobilité. Le type qui n'a jamais pris le train, il ne peut pas non plus aller trouver un boulot, il ne peut pas aller faire une formation. Donc je veux dire, il faut apprendre la mobilité alors que nos écoles apprennent la sédentarité. Donc il y a un énorme boulot à faire pour ouvrir la jeunesse, le ministère de la Culture et tout ça. Moi je rêve d'un ministère de la Culture et du Tourisme. On l'a fait à Nantes. Je conseillais à une époque la mairie de Nantes, je leur ai dit fusionner le tourisme et la culture. Depuis, il y a le voyage à Nantes, il y a tout ça, Jean Blaise fait un boulot fantastique. Mais ils ont mis tous les moyens ensemble, culture et tourisme. C'est la même chose, parce qu'on va voir les expositions chez les autres, on va visiter. Il faut arrêter de segmenter, il faut faire un grand ministère du temps qui organise tout ça.
Encore une question à propos du temps. Dans quelques jours, c'est la rentrée, c'est même lundi pour les élèves. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a dit hier que plus de 80% des élèves seront repassés à la semaine de 4 jours. La France a échoué à répartir le temps scolaire sur 5 jours. Ça vous étonne? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, ça ne m'étonne pas. Vous savez, le ministère de l'Éducation nationale a tendance à faire des réformes de temps qui concerne en fait tous les Français. Parce que quand on change l'école, tout le monde a prévu la grand-mère qui va garder son gamin, on a pris dans sa boîte, on a négocié les horaires, etc. D'un coup, on vous lâche les enfants l'après-midi au milieu d'après-midi. Ben, c'était ça, la semaine de 5 jours. On les lâchait beaucoup plus tôt. Vous êtes déjà allé à la sortie d'une école? Qui vous avez? Vous avez des mamans qui travaillent pas. Vous avez souvent des femmes voilées qui ne travaillent pas non plus. Donc vous avez l'impression qu'il y a que ça dans l'école, ce qui est pas du tout vrai, mais il se trouve qu'elles ne travaillent pas. Et puis vous avez quelques papilles. Mais je veux dire, il faut que l'école comprenne que c'est elle qui règle le temps de nos sociétés. Regardez, quand c'est les vacances, il n'y a plus d'embouteillage. Donc l'école ne peut pas gérer son temps comme un blocos. C'est le temps de tout le monde. 83% des femmes travaillent. Donc il faut réfléchir tous ces temps en même temps. Moi, je pense qu'à terme, on travaillera 4 jours par semaine. Les parents comme les enfants, les Américains travaillent sur le week-end de 3 jours. On est là sur des évolutions sur lesquelles il faut qu'on travaille.
Puissiez-vous dire vrai, Jean Viard? On passe, comme toutes les semaines, à l'actualité de la semaine grâce à ce mix qui a été mis en onde par Marie-Annick Rimbaud. Cette semaine, évidemment, une démission qui se veut un SOS pour la planète.
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui.
C'était la matinale radio à ne pas rater cette semaine. C'était mardi sur France Inter.
Nicolas Hulot, est-ce que vous avez prévenu Emmanuel Macron et Édouard Philippe de votre décision?
La réponse est non.
Nous l'avons donc tous appris en même temps, y compris le président.
C'est une décision personnelle qu'il a prise.
Ah bon ?
Je pense qu'en 15 mois, ce gouvernement a fait plus qu'aucun autre dans la même période sur ce sujet.
Mais Nicolas Hulot, lui, voit beaucoup plus loin.
Est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? La réponse est non. À réduire l'utilisation des pesticides ? La réponse est non. À enrayer l'érosion de la biodiversité ? La réponse est non.
Etc, etc. Les chasseurs, eux, sont ravis d'avoir eu la peau du ministre, Willy Schrein, le président de la Fédération Nationale de la Chasse.
Bon, il s'en va, c'est pas la plus mauvaise nouvelle de la semaine en ce qui me concerne. Je vais quand même pas avoir l'hypocrisie de vous dire « Oh non, je regrette profondément ». Non, 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 il s'en va, ça va, c'est bien.
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Emmanuel Macron va devoir remanier son gouvernement à quelques mois des européennes pour lesquelles il se pose en principal leader antipopuliste au sein de l'Union. Mais en France, l'opposition l'attend de pied ferme.
Nous allons faire de cette élection un référendum anti-Macron. Nous allons inviter les Français à lui mettre une raclée.
Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul à vouloir en découdre. À droite aussi, on essaye de se mettre en ordre de marche, mais du côté de LR, ce n'est pas gagné.
On va proposer un projet populaire alternatif à celui d'Emmanuel Macron. Je dis bien un projet populaire, pas un projet populiste.
Les Français refusent de devenir étrangers dans leur propre pays.
C'est pas environnant, ça. C'est pas structuré.
En attendant, avis de gros temps sur la rentrée, d'autant que les choix budgétaires commencent à faire grincer, notamment chez les retraités.
Monsieur Macron nous repique des sous.
Une société qui met à la poubelle ses vieux pourra sa perte.
Moi, je suis pour Macron. Hein. S'il faisait un petit virage à gauche, ça nous intéresserait.
Je veux mes sous, je veux mes sous, je veux mes sous.
Pas de virage à gauche en perspective, bien au contraire. Le président rêve de réformes libérales, comme ici au Danemark.
Ce qui est ici possible est lié à une culture. Ce peuple luthérien n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement.
Emmanuel Macron à Copenhague, où il s'est affiché à bicyclette, alors qu'ici, on attend toujours le plan vélo préparé par Nicolas Hulot, qu'on prenne qui pourra.
À bicyclette.
Sinon, quoi de neuf cette semaine ? Mardi, c'était aussi le grand retour de Nicolas Sarkozy. C'était sur France Culture, mais c'est passé totalement inaperçu en raison de la démission de Nicolas Hulot. L'ancien président était vert de rage.
C'est son choix. Pour moi, vous savez, quand je parle de la crise qu'on a connue et qui peut revenir, c'est tellement plus important.
Tellement plus important que l'avenir de la planète. Au fait, rappelez-nous qui était président lors du Grenelle de l'environnement il y a plus de 10 ans. Et l'on en revient à Nicolas Hulot qui depuis longtemps songeait à démissionner. Il a fait son choix en rentrant de vacances. Comme quoi, Jacques Tati avait drôlement raison.
Je l'ai pris au sortir de 15 jours de repos.
Les vacances, il n'y a que ça de vrai, et ce ne sont pas les enfants que le Secours Populaire a emmené voir la mer qui dirait le contraire.
C'est la première fois que je vais à la plage. C'est très très salé, c'est comme quelque chose que j'ai jamais mangé.
Je vais aller mettre un bocal et mettre tous les coquillages.
Eh oui, les vacances, il n'y a que ça de vrai, hein, Jean-Viard.
Non, je crois pas, mais je crois que c'est important.
Ah, mais c'est important pour ces enfants.
Surtout le secours populaire fait un très bon boulot. Oubliés, cette année, ils ont amené 15 000 enfants à la mer.
La journée des oubliés, les vacances, dire, c'est quelque chose. Sinon, alors, on en vient à la politique, cette démission de Nicolas Hulot. C'est quoi ? C'est la difficulté du en même temps, défendre la biodiversité, faire plaisir aux chasseurs.
Il y a deux façons de dire les choses, si vous voulez. Rappelez-vous René Dumont. En 74, quand il s'est présenté avec un verre d'eau à une élection présidentielle, il a fait chaud. Je ne donne pas le pourcentage, mais ça doit être 1 ou 2%. Au fond, on s'en souvient tous, alors qu'au moment, on avait un peu rigolé. Aujourd'hui, 85% des Français trouvent que le gouvernement n'en fait pas assez en matière écologique. C'est aussi une façon de critiquer le gouvernement, mais ça veut dire que la culture, la mentalité a énormément changé. On sait que le réchauffement climatique est dangereux, etc. Alors après, le départ de Nicolas Hulot, bon, ben effectivement, est-ce que c'est un appel, est-ce que c'est en tout d'un peu tout ça, c'est aussi son
caractère.
Mais
il pose quand même des questions de fond.
Il pose des questions de fond.
Concilier croissance économique et préservation de l'environnement, c'est la grande question quand même.
Le problème, c'est la vitesse des luttes sociales. C'est-à-dire, si vous voulez, les luttes pour les droits des travailleurs, les congés payés, le non-travail des enfants, il a fallu plus de 100 ans. c'est des revendications vers 1830, et elles vont aboutir, disons, en 68 pour finir, c'est-à-dire la fin des droits sociaux les plus importants, les vacances, la retraite, la sécu, l'école pour tous, l'interdiction du travail de nuit des femmes, etc.
Mais là, il y a urgence quand même.
Oui, alors il y a une urgence. Mais le problème des sociétés, c'est qu'elles avancent au rythme où les citoyens ont envie qu'elles avancent. Or, en ce moment, on dit aux politiques, débrouillez-vous pour qu'on arrête de polluer. Mais en gros, moi, je change. Alors, on n'a pas rien changé. On fait du tri sélectif. Honnêtement, moi, je m'en suis occupé quand j'étais élu à Marseille et les gens étaient très demandeurs. Je veux dire, on fait plus attention. Moi, je vois des écolos qui viennent, ils vont en vacances à 1000 km de chez eux, ils ont une voiture hybride. C'est bien, mais les voitures hybrides, honnêtement, ça sert surtout en ville. Donc, je veux dire, le problème, c'est qu'au fond, on ne change pas. Mais parce que il faut inventer. On ne fera. Vous savez, les sociétés ont le droit de mourir et il y a beaucoup de sociétés qui sont mortes. Donc, moi, j'ai peur des savants qui savent ce qu'il faut faire. On a eu ça avec le marxisme, ça a amené au totalitarisme. Le mec vous sort un livre, il dit tout est dedans et il faut faire ça. Il faut pas recommencer. Et donc, effectivement, c'est une bataille culturelle. Et cette bataille culturelle, elle doit pousser les politiques et elle doit les pousser à aller plus vite. Mais il faut aussi des objectifs clairs. Les écolos, moi, je sais pas, ils sont pour ou contre le nucléaire. C'est pas clair, par exemple. Or, c'est une vraie question. C'est est-ce que le nucléaire est une énergie qu'on va continuer à utiliser en transition avec les énergies du futur renouvelables, mais on sait très bien qu'on les a pas encore toutes. Donc, est-ce qu'on accepte la transition? Pourquoi on l'accepterait pas? Pourquoi ils sont contre les chasseurs? Excusez-moi, moi, je suis un rural. Donc, effectivement, j'ai même été à la chasse. Vous voyez, j'ai le permis de chasse. J'ai même un fusil russe. Bon, j'ai jamais tué rien parce que je suis manque d'entraînement. Mais bon, j'y vais plus depuis très longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut, c'est pas opposition. Il faut faire attention. L'écologie, c'est pas la ville contre la campagne. Non plus.
Les Français traités de Gaulois réfractaires aux réformes, vous?
Non, mais ça, si vous voulez, ça s'inscrit. En plus, c'était un bout de phrase pour différencier des protestants.
Oui.
Donc, c'est pas faux.
Mais c'est quand même une façon de dire que les Français.
Non, mais c'est une façon d'essayer de typer. Le problème, on est dans une. Disons les choses simplement. On est dans une bataille pour les identités qui a remplacé. Les classes sociales ont explosé. On est dans une société de mobilité, de discontinuité. Il y a 11 à 15% des gens qui sont en tout cas, travaillent encore dans des usines. Donc, je veux dire, le culture politique de la révolution industrielle a disparu en 10 ans. Donc, on est, Victor Hugo disait, il y a des moments où le peuple redevient foule. On vit ça. Le peuple redevient foule. Donc, il n'a plus de structure. Donc, la vie privée des gens est heureuse. 75% des gens sont heureux. 60% des gens sont optimistes. Mais ils ne voient pas où va le monde. Et donc, c'est cette question compliquée. Et donc, Emmanuel Macron essaie. Il est le seul leader à ne pas être pris dans les raies du populisme où il y a Madame Merkel qui est en fin de course.
Est-ce qu'il sait parler aux Français?
Mais, mine de rien, on parle de ce qu'il dit. Et donc, tout le monde lui tire dessus, bien entendu. Mais je veux dire, comment, qui en ce moment, dans les grandes démocraties, arrive à tenter de lutter contre le populisme? Je dis bien tenter, je dis pas qu'il va réussir. Moi, je vous l'avais dit, je l'avais soutenu, je le fais toujours. Je sais que c'est une tentative. Mais je veux vous dire, si Emmanuel Macron se casse la gueule, derrière, on sait très bien que ça sera Marion Maréchal. Faut pas rêver. Je veux dire, et donc, c'est pas pour dire soutenez-le parce que ça, c'est pour dire qu'il y a une tentative, il faut l'enrichir, elle a des défauts, et il faut comprendre une chose. On a besoin d'appartenir. Avant, on appartenait à des classes sociales et à des nations. Le Jaurès, rappelons-nous, le conflit entre être, est-ce qu'on est français ou est-ce qu'on est ouvrier? Bon. Et au fond, c'est la même question aujourd'hui. On a besoin d'avoir un sol, un territoire. C'est aussi pour ça qu'on a si peu d'immigrants. Parce qu'ils n'ont pas de sol. Mais nous, notre sol, est-ce qu'il est durable? Est-ce que son identité est protégée? Est-ce qu'effectivement, il va, et on va pendant des siècles. Moi, vous voyez, je me bats pour qu'on sanctuarise les terres agricoles comme en Suisse au Canada. Il faut, on prend 1300 hectares par semaine de terres. Alors quand on nous dit Notre-Dame-des-Landes, regardez le ministre l'a dit l'autre jour, oui, ça a sauvé 1000 hectares. Mais on en prend 1300 par semaine. Il faut donner du sol à la symbolique d'appartenance française. Un sol français protégé pour effectivement le long terme.
Mais est-ce que ce discours-là, il l'a, Emmanuel Macron? Parce que vous l'avez soutenu. On peut.
Non, mais bien sûr.
Vous avez
sûr,
quand même un regard critique aussi.
Mais bien entendu.
Vous avez dit un jour, à son sujet, l'amour du sol semble lui manquer. Il n'a pas une pensée
mais
du territoire.
Mais c'est pour ça que je le pousse. Moi, je dis en ce moment, on a une opportunité. Il faut se dire, vous voyez, Nicolas Hulot est parti. On pouvait le comprendre, etc. Et puis je pense effectivement qu'il a pris d'une part du ministre de l'Agriculture et du ministre des Territoires, effectivement, des conflits assez violents. Même s'il a fait des choses qui sont intéressantes, etc. Mais le problème, c'est vrai, le gouvernement n'a pas pouvoir à changer le monde si les citoyens n'ont pas envie qu'il change à cette vitesse. Après, on a quatre enjeux. On a l'écologie, le territoire, l'agriculture et la culture. Il faut les mettre ensemble, il faut les penser ensemble. Le ministère de la Culture, c'est pas le patrimoine, c'est pas les théâtres, c'est la culture française. Et cette culture française, il faut effectivement que ça soit celle d'un pays de la diversité et que ça soit un pays du sol. Il faut que nos jeunes visitent, il faut qu'ils connaissent la cathédrale de Paris, il faut qu'ils connaissent la Bretagne. Il faut être fier du sol. Vous savez, on peut être des nationalistes de la frontière ou des nationalistes du territoire. Moi, je suis un nationaliste du territoire et je suis contre le nationalisme de la frontière.
Eh ben, vous me faites une formidable transition avec le reportage de la semaine qui va suivre à présent, parce qu'il est tout en paradoxe. Alors que la vieille Europe se disloque sur la question des migrants en France, le patronat de l'hôtellerie-restauration demande à pouvoir embaucher 100 000 réfugiés et demandeurs d'asile, car le secteur souffre d'une véritable pénurie de main-d'œuvre. C'est un reportage de Sébastien Sabiron.
Ça marche, un tartare, un plat jour. Bakary.
Oui, chef, c'est pas les mêmes. Hein.
Dans la petite cuisine surchauffée du Mesturet, Bakary dresse les assiettes les unes après les autres. Le geste est précis, appliqué. Le jeune homme de 22 ans est commis de cuisine en CDI dans ce restaurant parisien, loin de son village malien qu'il a quitté à 15 ans en traversant la Méditerranée sur un bateau surchargé.
C'était très très dur, il n'y avait rien à boire ni à manger. On a été complètement chaos. J'ai personne en France. Pas de famille ici, il n'y avait personne.
Passé par un centre de rétention espagnol, Bakary gagne ensuite la France et dort dans la rue, à Paris. Grâce à une association, il entame ensuite un CAP cuisine et décroche un apprentissage dans ce restaurant.
Ça m'a tellement plu, j'ai dit que je vais envoyer mon CV. Après, ils m'ont pris 2 ans. Après, ils m'ont donné un CDI. Dans la restauration, on peut dire que ce n'est pas facile. C'est très dur. Tout le travail, c'est dur. Mais c'est ça que aussi je vais faire et je vais vivre en France.
Qu'est-ce qui vous plaît en France ?
Tout. Le travail, le planning. En France, les restos ils sont magnifiques. C'est ça que j'ai choisi.
2 escabèches, une terrine de poulet, 2 magrets de canard et une tête de veau. Oui, chef !
Bakary doit son emploi au chef Alain Fontaine, qui a déjà formé 6 migrants. Une démarche à la fois humaniste et économique pour ce chef d'entreprise qui a du mal à fidéliser les jeunes Français.
Je peux vous dire qu'un jeune qui a traversé la Méditerranée, qui a perdu ses parents, eh bien, je crois qu'il a une autre histoire à raconter. Bah, ils apportent de la maturité, bien évidemment. Ils n'ont pas passé leur enfance devant une télévision ou avec une tablette. Ils sont bosseurs. On ne les fait pas plus bosser que les autres. Ils travaillent dans des horaires normaux et ils ont un salaire normal. Ils ont comme les autres, mais c'est des gens, effectivement, qui ont une façon de voir le travail différente que les autres, parce que ce travail-là, ils l'ont voulu, ils l'ont cherché. Et des fois, l'expérience d'un réfugié est très importante dans une équipe.
Mêmes horaires, même salaire que les Français. Précision importante, tant le secteur a souvent été épinglé pour travail dissimulé. En appelant à faciliter l'emploi des migrants, les professionnels se défendent de vouloir profiter d'une main-d'œuvre docile. Vincent Sitz du GNI, le Groupement National des Indépendants, 2e syndicat du secteur.
C'est pas parce que les gens sont dans des situations difficiles qu'il faut les exploiter. Je pense que le code du travail est là pour le rappeler à tous les chefs d'entreprise. Le code du travail, c'est le code du travail. On ne l'ignore pas. Aujourd'hui, on se penche plutôt sur les personnes qui peuvent être régularisables, donc les demandeurs d'asile, et on s'occupe de ceux qui ont déjà été régularisés, les réfugiés.
Si les réfugiés n'ont besoin d'aucune autorisation, les demandeurs d'asile, en revanche, devaient attendre 9 mois avant de pouvoir travailler, ce qui encourageait le travail au noir. Délai raccourci depuis l'adoption cet été de la loi Asile et Immigration, grâce à un amendement déposé par Aurélien Taché, député La République En Marche.
Les personnes peuvent maintenant demander l'autorisation de travailler à partir de 6 mois, et l'administration est tenue de leur répondre dans un délai maximum de 2 mois. Si elle ne le fait pas, le silence vaut accord. Les personnes peuvent travailler. Et donc ça, c'est vraiment une petite révolution, puisque la plupart de ce que veulent les migrants qui sont en France quand ils arrivent, c'est bien d'abord et avant tout de pouvoir travailler, parce que c'est comme ça qu'on retrouve sa dignité.
Les restaurateurs, eux, aimeraient que ce soit encore plus rapide.
On a l'une des législations les plus restrictives d'Europe. On a, dans beaucoup de pays européens, une autorisation qui est, par exemple, délivrée après 3 mois. Pour certains secteurs qui sont particulièrement tendus, ça pourrait être expérimenté. Ce serait intéressant.
Mais au-delà des lenteurs administratives, la langue reste le principal frein à l'insertion professionnelle, y compris en cuisine. La loi Asile et Immigration prévoit de doubler, voire tripler, le nombre d'heures de français proposées aux réfugiés. Actuellement, seule 1 personne sur 3 trouve, comme Bakary, un emploi dans les 5 ans après son arrivée en France.
Un reportage de Sébastien Sabiron. Jean Viard, intéressant cette demande du patronat de l'hôtellerie-restauration.
En ce moment, en France, on a un vrai problème. On a été dans une situation de chômage terrible. Les gens ont appris un peu à vivre avec ça, à se protéger. Moi, tous mes copains qui ont des restos, ils me disent, il y a 20 ans, il y avait 10 jeunes qui venaient me demander du travail, personne ne vient plus en chercher, et souvent, les gens s'en vont sans me prévenir, en disant, demain, je suis plus là. Bon, donc, il y a un vrai problème, y compris dans notre société. Bon, ça, c'est vrai. Après, effectivement, moi, je suis très favorable à ce qu'effectivement, il y a du travail, il y a des gens qui veulent travailler, parce que c'est même pas dans les vendanges. Les vendanges, il manque au moins autant de temps, gens, que là. Ce qui nous pose un vrai problème, quand même, sur, au fond, la fierté de l'argent gagné, les règles. Vous voyez, en Belgique, ils ont mis en place un système que j'aime bien, c'est que de 16 à 25 ans, on peut travailler pour 3 000 euros déclarés sans charge pour garder des enfants, pour travailler dans... Donc on apprend aussi la culture. C'est pas très compliqué de servir en salle, mais il faut regarder les gens, les écouter, être gentil, blaguer, c'est de la relation. C'est quand même génial, la métier de relation. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un peu l'image du secteur, mais attendez, l'image du secteur, elle est pas si mauvaise que ça.
On en parlera du secteur tout à l'heure dans le téléphone sonné. Voilà. Pour en revenir aux migrants, hein, je vous pose la question.
Et les migrants, il vaut mieux qu'ils travaillent que d'être à charge.
Un de vos derniers livres s'appelle « Quand la Méditerranée nous submerge ». Ça veut dire quoi? On a toujours cette peur? On n'a pas réussi à pacifier nos relations avec nos voisins du sud de la Méditerranée?
Il mérite qu'on lui tende la main et qu'on le reçoive décemment. Parce que c'est un homme, une femme, un enfant. Et donc, quand on voit des gens dans la rue et tout, c'est inadmissible. Après, il y a une autre question, c'est jusqu'à quel point... Les gens de l'Aquarius le disent très bien. Ils disent, nous, dès qu'un homme se noie, on le sauve, mais on ne dit pas qu'il faut que tout le monde vienne. On n'a pas un discours sur les migrations. On a simplement une solidarité humaine. Ça, c'est très important de ne pas mélanger les deux sujets. Parce qu'effectivement, on est dans une situation où l'Afrique est dans une vase démographique énorme, dans des pays souvent difficiles, voire totalitaires, où il n'y a pas beaucoup de travail. Il y en a qui se développent très bien, il ne faut pas être caricaturaux. Mais on voit bien qu'il y a plein de jeunes qui partent parce qu'il y a la guerre, d'Érythrée, tout ça. Et donc, effectivement, l'Europe n'est pas faite non plus pour que le destin d'un jeune Africain dynamique, ça soit l'Europe. Il faut dire les deux. Et effectivement, on peut bien traiter les individus et avoir une réflexion demain. Mais en plus, l'Europe doit s'occuper de son sud. Je veux dire, quand on voit les États-Unis qui sont en train de renégocier les traités avec le Mexique, etc., avec leurs voisins, il est temps que l'Europe renégocie une politique, mais africaine, globale. C'est un monde en développement, c'est un monde qui a des ressources, c'est un monde... Mais il faut le investir pour qu'il se développe. On n'a pas de politique européenne.
Et pour en revenir à ces migrants qui viennent, cette question des migrations qui est en train de faire flancher l'Europe, et cette peur de l'islam, moi j'ai vu, je trouvais ça intéressant, vous dites à propos des jours fériés, ici en France, que vous proposiez que l'Église catholique, qui a pas mal de jours fériés, en cède deux, donc un jour aux Juifs et un jour aux musulmans. Ce serait symboliquement important pour vous,
ça? C'est la moindre des choses, je veux dire. La France est un pays divers. D'abord, les Juifs ont toujours été là, ils n'avaient pas le droit à des fêtes pour des tas de raisons. On aurait pu, je dirais, en 45, leur donner un jour férié à titre, j'allais dire, pour demander un peu pardon d'un certain nombre de choses qu'avait pu faire l'État français. Faut quand même, on aurait pu. Bon. Et puis surtout, si vous voulez, le fait d'avoir fait la colonisation, moi j'ai toujours été passionné comme un cercle éditeur, nos cultures se sont mélangées. On est devenu indépendant et c'est très bien, mes amis algériens n'ont pas du tout envie de redevenir français. Mais ils lisent en français, ils écrivent en français, c'est pareil en Asie, etc. Donc à un moment, il faut comprendre que les cultures continuent à être liées, comment on organise ça et comment on le fait de manière intéressante. C'est ça l'enjeu des questions qui nous sont posées.
On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclaboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin. Les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps car ce n'est plus possible de freiner. On n'a plus le temps car c'est comme si les jeux étaient déjà faits. On n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés.
Nous sommes Mieux Sexe sur France Inter, programmation signée Djoubaka. Jean Viard, j'aimerais bien qu'on dise un petit mot de votre parcours personnel. Vous êtes un homme du Sud, vous avez grandi à Marseille, vous avez fait vos études à Aix-en-Provence, vous habitez le Vaucluse depuis bien longtemps.
68.
Ouais, c'est ça. On peut dire que vous avez fait partie des, ce qu'on appelle les néo-ruraux. Vous avez fait votre retour à la terre dans
on
les années 70.
On peut le dire.
Après mai 68.
J'ai tué mes poules, j'ai tué mon mouton, j'avais un tracteur, j'ai vécu un petit groupe de gens. J'étais
en
de ma
communauté,
génération.
Voilà. On imagine souvent que hors de Paris, point de salut, surtout quand on est enseignant-chercheur au CNRS, à Vipof, pour vous, ça n'a jamais été un souci?
Bon, j'ai toujours eu une carrière un peu compliquée parce que ça m'a jamais intéressé vraiment. Moi, j'écrivais mes livres et si on voulait pas de moi dans les institutions, je cherchais une autre façon de vivre. J'ai toujours fait de l'édition, j'ai créé ma maison d'édition il y a 30 ans, j'ai été au départ d'Actes Sud avec Hubert Nissen avant que Françoise ne vienne dans l'entreprise. Donc, je veux dire, j'ai toujours eu plusieurs métiers. Après, j'ai toujours eu un pied en politique. Depuis que je suis petit, je voulais changer le Vieux-Port de Marseille. Ça m'a pris 20 ans et un jour, on m'a dit, viens sur la liste. J'ai dit oui, mais je change le Vieux-Port. Godin m'a dit oui, les autres m'ont dit oui. Bon, j'ai changé le port.
Vous avez été élu sur une liste de gauche. Hein,
oui, sur une liste de gauche, mais tout le monde voulait que je sois élu. Il y avait tout. Il y avait des centristes, c'était une liste très ouverte. Et puis, j'ai négocié avec Godin pour qu'on change le Vieux-Port et on a transformé ce Vieux-Port. J'ai dépensé 80 millions en 6 ans, mais je pense que les Marseillais sont complètement contents de leur ville. Je suis un des seuls intellos qui peut dire, j'ai transformé le centre de ma ville. Mais c'est ça la vie, c'est d'agir, quoi.
C'est de s'engager.
Mais bien sûr, cette année, j'ai publié un livre d'un ambassadeur sur la Chine de Claude Martin. C'est une merveille. 2 400 000 signes.
Les éditions de l'Aube, on précise quand même parce qu'on l'a pas dit.
Je pense qu'il faut partir du réel, regarder les réalités et puis essayer de faire de la théorie avec ça. Moi, je suis pas un intellectuel en chambre. J'ai bien aimé. J'ai été baba cool. J'ai été presse des politiques. Je connais des politiques qui sont des voyous, d'autres qui sont très sympathiques. Donc, je veux dire, voilà. Et c'est pour ça que quand Emmanuel Macron s'est présenté, j'ai dit une fois à François Hollande, écoute, je vais aller travailler avec lui, parce que là, en ce moment, si on veut que ça bouge, si on veut remettre l'entreprise au cœur de la société, c'est pas que je l'aime ou que je l'aime pas, c'est pas un discours d'amour. La France, à un moment...
Vous avez été quand même convaincu, puisque vous avez été candidat aux législatives pour la République En Marche.
À l'élaboration du programme.
Vous avez même failli être élu, hein.
Le FN a fait 49% dans la circo, donc je partais difficilement, mais c'est là où j'habitais. Ce que je voulais pas, c'est que le FN soit élu. Bon, il y a un député de droite qui est pas très différent du FN,
mais enfin,
il est quasi pareil. Celui qui a son parti qui s'appelle Bleu Lavande. Alors, Bleu Lavande et Bleu Marine, ils ont fusionné, ça c'est sûr. Bon, j'ai perdu de 400 voix, j'ai perdu. Mais si vous voulez, c'était surtout pour marquer le coup. Il faut se battre dans cette société. Et il y a des opportunités. Et si vous voulez, si on veut pas arriver à un populisme, il faut réinventer des formes de politique. Moi, je pense qu'il faut baisser les prélèvements obligatoires et remettre l'entreprise au centre. C'est les deux axes de la politique du gouvernement. Je les soutiens. Il y a des tas de trucs qui me plaisent pas, évidemment, mais on se soutient pas pour des détails, si vous voulez. On est dans une montée de systèmes autoritaires. Donc, il y a des choix qui sont un peu binaires quelque part, je veux dire. Et moi, c'est à ça que je dis, oui, moi, je travaille depuis très longtemps sur l'extrême droite, j'ai travaillé beaucoup sur Toulon. Quand Toulon est devenu Front National, j'ai demandé à la ministre de remonter le théâtre de Château-Vallon. J'étais administrateur du théâtre pendant 6 ans avec Boris Cyrulnik, qu'on a mis comme président, parce qu'on voulait pas qu'il y ait pas de théâtre dans une ville Front National. Pour moi, c'est ça la vie, quoi. Mais alors, les mecs, l'extrême droite, je la connais. La peur aussi des anciens pieds noirs de voir arriver les immigrés, je la connais. Parfois, je la comprends. Parce qu'ils sont partis d'Algérie, à Toulon, voilà. Mais après, je veux dire, il faut se battre sur des valeurs, y avoir des idées, aller sur le terrain. C'est ça une vie amusante.
Vous avez défini votre métier de sociologue, et je trouve ça intéressant, historien du présent.
Oui, mais parce que c'est ça que je fais. Il y a des sociologues sans doute plus théoriques que moi. D'ailleurs, moi, j'ai fait des études d'économie, pour être tout à fait honnête. Je suis docteur en économie.
Et après, vous avez fait votre thèse avec Edgar Morin.
Avec Edgar Morin,
hein, sur les vacances,
pour qui j'avais
déjà
une profonde admiration. On continue à être extrêmement liés. J'ai publié 7 livres d'Edgar Morin. On se voit assez régulièrement dans des festivals, tout ça. Je suis très proche de cette pensée, si vous voulez, de comprendre la complexité de ce monde, son changement. C'est un monde sans structure. Il est à la fois très souple. D'ailleurs, les gens sont heureux, en fait, mais dans leur vie privée. Mais un monde très souple, on n'a pas de structure. Et vivre sans structure, c'est pas possible. Pour ça, juste une chose, il y a un chiffre qui est fondamental, c'est que 60% des bébés naissent hors mariage. Il n'y a pas que le capital, il n'y a pas tout ça. On ne vit plus comme avant, on sort des règles et on a choisi de le faire. Et donc ne faisons pas comme si tout nous était imposé par le capitalisme, Trump, etc. On est des individus libres et heureux dans une société qui manque de structure. Et puis, il y a des très fragiles, qu'on ne sait plus intégrer à ce modèle. On leur propose rien. Il n'y a pas de futur, comme disait ce matin Rosane Vallon sur votre antenne. Donc il faut construire un futur. Il faut se dire que ce monde peut redevenir passionnant.
Ça,
mais
c'est votre côté optimiste, hein, c'est ce que je disais.
Mais non,
disais
mais si vous n'avez pas d'horizon, vous rêvez du passé. Et les Français en ce moment, ils rêvent du passé. Ben, on ne reviendra pas à la diligence.
Hein. En tout cas,
la
votre...
diligence, ce n'était pas amusant du tout.
Votre
comme
dernier
moyen de
livre s'appelle Une société si vivante. Et là, c'est quand même plutôt optimiste.
Ben, mais parce que tant qu'on est vivant, vous savez, tout le reste, tant qu'il nous reste à vivre, est inscrit dans le futur. Hein, donc.
Vous l'avez dit à deux reprises, très rapidement, depuis le début de l'émission, vous avez dit à propos de la France, c'est la terre du bonheur privé et du malheur public. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça?
Mais c'est une formule que j'emploie souvent, si vous voulez, parce qu'on se rend pas compte à quel point le modèle qu'on a construit, où je suis malade, on me soigne. J'ai un gosse, on me le prend à l'école. La plupart du temps, vous n'avez pas de logement, vous trouvez un HLM. Après, il y a la partie qui n'en a pas. Je sais qu'elle existe, mais on fait comme si l'exclusion était le cœur de la société. Non, l'exclusion est une périphérie qu'on ne sait pas intégrer. Donc, il faudrait s'occuper mieux. Mais c'est pas le cœur de la société. Faut pas exagérer. Bon, 75% des gens vous disent qu'ils sont heureux au lit, heureux dans leur boulot et heureux dans leur quartier. Il y a encore un sondage que je regardais dans le train qui vient de sortir qui dit la même chose. Donc, mais par contre, ils sont désespérés de l'avenir de la France. Donc, le problème, c'est de cette angoisse et qui est le propre des anciens pays coloniaux. On a été les maîtres du monde et on ne sera plus jamais les maîtres du monde. Et la France le vit encore plus difficilement. Après, il y a les autres pays d'Europe. Et donc, si vous voulez, là, on est... Et regardez ce qui se passe en Russie. Ils ont aussi été les maîtres du monde quand ils étaient sur la place rouge. Voilà. Et donc, si vous voulez, on a là à réinventer un futur. Mais à dire aux gens, effectivement, on n'est plus ce qu'on a été, mais on est quand même la 7e puissance économique. Vous savez, Paris, c'est la première ville scientifique au monde. Il y a 80 000 chercheurs à plein temps. C'est plus que la Silicon Valley. Mais sauf que c'est classé dans 14 universités et 200 petites écoles. On n'a pas le sens de ça. Il faut dire des choses comme ça.
Et il faut dire ce qui se passe de positif. Et c'est précisément la rubrique Les Bonnes Ondes qui a lieu tous les vendredis dans cette émission. Bonsoir Sandrine Houdin.
Bonsoir.
Ce soir, un nouveau sport que n'aurait pas renié Nicolas Hulot car il permet de joindre l'utile à l'agréable. Sa pratique se répand comme une traînée de poudre partout en France. Son nom, c'est le plogging. Alors, ce n'est pas forcément de l'anglais. Qu'est-ce que c'est?
Alors, ça nous vient de Suède. Plogging, c'est la contraction du verbe plocka up qui veut dire ramasser en suédois et du mot footing. En fait, vous courez et sur le parcours, vous ramassez tout ce qui traîne.
Tout ce qui traîne, c'est-à-dire les déchets, les saletés, c'est ça?
Tout ce qu'on trouve. En fait, on fait du sport et on fait le ménage. Moi, je trouve ça génial. C'est bon pour la planète. C'est très physique. Vous allez voir, pour la ligne, c'est radical. Et puis, c'est gratos. Le seul investissement, un sac poubelle et une paire de gants.
Alors, à vos détritus, prêts, partez. Vous avez suivi, Sandrine, une bande de plogueurs sur les quais du canal Saint-Martin à Paris, avec l'association EDNI qui organise régulièrement des séances.
On va commencer par faire l'échauffement. Allez, on se baisse et on se relève. Attention, 5.
Un échauffement 4, avec 3, sac poubelle et paire 2, de gants.
Et 1.
Pour Laura, c'est une première.
Je trouve ça un petit peu insolite, franchement. Je pense que lundi, quand je vais aller voir mes collègues, je leur dirai j'ai couru, j'ai ramassé des déchets. Ah ouais, tiens, ça existe ça.
Bien sûr que ça existe. Cette petite fille est même une habituée des séances du samedi matin.
Quand on sait que c'est pour la bonne cause, on fait pas attention à la fatigue. Même si on est fatigué, on se dit allez, on va faire un geste pour la planète. Même si c'est pas beaucoup, ça aide.
C'est aussi notre rôle de parent de leur montrer les beaux gestes qu'on peut effectuer pour sauver la planète.
Vous pensez que c'est plus efficace qu'un beau discours à table le soir?
Carrément.
Alors, vous allez voir, on est samedi matin. On va vraiment avancer très très lentement. Il y a des déchets absolument partout. Quand on ramasse les déchets, on essaie de plier les jambes et de ne pas abîmer le dos. Ok?
Plogging ou comment transpirer utile.
1, 2, 3, allez, top départ!
Hélène et Julie organisent des courses régulièrement.
Là, on aime bien le long du canal parce que c'est un endroit où pas mal de gens en étaient pique-nique. Donc, et malheureusement, il y a pas mal de déchets qui sont laissés derrière. On va trouver pas mal les paquets de cigarettes. Là, on en voit devant nous, pas mal. Des boîtes en plastique, pas mal. Au bout d'un kilomètre, on a rempli un sac de 20 litres.
Moi, je termine tout le temps le plogging en marchant parce que je peux plus courir. Je dois avoir peut-être 15 kilos de déchets avec moi, verre compris. Les gens sont pas très propres.
La preuve, récolte du jour.
Alors
un sac bien rempli, sur 4 km seulement.
Crevant?
Ouais, quand même. C'est un type d'effort assez différent du running, parce qu'en fait, on est beaucoup sur ses cuisses, à se baisser, à aller chercher les mégots, à chercher les petits trucs au sol. Donc ouais, au niveau des muscles, ça travaille.
C'est simple, c'est un déchet, un squat.
Voilà, c'est ça.
Voilà. On fonce vers le déchet, on se baisse, on le ramasse, et puis on continue. Ça casse pas mal le rythme. Je pense que c'est un bon entraînement, assez complémentaire du jogging.
À la fin, c'est assez affolant ce que vous avez ramassé.
Alors, je peux dire que la première fois, j'avais pris un tout petit sac, genre un petit sac qu'on prend dans le commerce, et en fait, je l'ai rempli en 5 minutes. Le sac était plein, plein de de tout et n'importe quoi. Alors, moi, il y avait des chaussures, des bouteilles, des gourdes de compote pour enfants, des vêtements.
Vous ne vous doutiez pas ?
Ben non, pas du tout en fait. On traverse les espaces publics et on fait pas attention en fait à tout ce qui est autour de nous. Et c'est vraiment au moment où on les cherche qu'on se rend compte de la quantité qu'il y a autour de nous.
Prête à refaire une nouvelle séance ?
Oui, oui, clairement. J'ai vraiment pris plaisir à courir en équipe. Moi, j'aime bien courir et c'est vrai que si je peux donner du sens à ce plaisir assez solitaire en fait d'aller courir, de faire une action pour l'environnement à côté et de revenir avec des déchets, dire voilà, j'ai fait quelque chose de bien.
Merci Sandrine, hein. Bravo pour cette initiative. On va peut-être citer juste deux sites hein, pour ceux que ça tenterait, edeni.fr ou runecoteam.fr. Il y aura tous les détails sur la page de l'émission Jean Viard. Formidable.
Mais moi, je suis parti d'une génération à s'acheter une bétonneuse pour réparer sa ruine, plutôt que d'aller courir dans la colline. Finalement, on trouvait que c'était mieux, et que c'est, donc je suis tout à fait pour. Mais il y a plein de Français qui jardinent, etc. Mais il y a plusieurs choses.
C'est pour la collectivité aussi.
C'est à la fois pour la collectivité. On est avec les autres, on crée du lien, et ça c'est quand même essentiel. Et en ce moment c'est ça, on n'est plus d'appartenants, on crée des liens. Ça c'est très bien. Regardez les gens qui rachètent leur supermarché. Ça marche très très bien. Ils vont travailler une après-midi par mois. On a du temps, mais ils font baisser les prix. Donc on est en train d'inventer des formes de liens, les AMAP, c'est la même chose. Enfin, c'est un modèle différent, mais c'est le même principe. Dire comment on crée du lien grâce à son temps libre, alors qu'avant on était construit de liens sociaux par notre travail. Mais comme on travaille que 10% de sa vie, et qu'en moyenne on habite à 20 km de son bureau, on connaît pas ses copains, etc. Donc forcément, il faut d'autres liens. Et notamment là où on habite, le lien du territoire, donc ramasser les bordilles autour, comment dire, à Marseille, autour de là où on habite, les jardins aussi, on voit les gens qui plantent dans l'espace public, etc. Je pense que c'est fondamental. Une société, c'est des gens qui se parlent, qui s'aiment, qui se désirent, qui ont des choses à se dire, qui s'engueulent, et donc ça, il faut le refaire. Faut pas tout faire à des gens qui en payent, il faut y mettre du temps.
Parce mais il y a des tas d'initiatives, parfois on l'oublie. On l'oublie pas ici avec
Le mouvement associatif est d'une puissance extraordinaire. Mais ce qu'il faut bien se dire, si vous voulez, c'est que plus on vit longtemps, et moins on travaille longtemps, plus on a de temps. Ce temps, on ne peut pas toujours consommer. Parce que d'abord, on n'a pas assez d'argent, parce qu'on là, on gagne 3 heures de vie par jour. Mais nos salaires n'augmentent pas de 3%. Donc forcément, on a du temps. Et donc, qu'est-ce qu'on fait du temps ? On rencontre les autres. Il y a quand même autre chose que mythique pour se rencontrer.
Il y a des tas de choses à faire. Alors, je voudrais aussi signaler, Jean Viard, votre interview dans le 1 de cette semaine sur le thème « Changer de vie ». Ça, c'est quelque chose qui tente de plus en plus de gens ?
C'est incroyable, le sondage qu'a fait M6, il y a 80% des Français qui disent qu'ils en rêvent. Et si vous voulez, ça montre bien qu'on est devenu une société d'individus. François Mitterrand voulait changer la vie, ce qui m'avait toujours un peu gêné, même si je l'ai beaucoup soutenu. Parce que changer la vie, moi je demande pas aux politiques de changer ma vie, surtout à l'époque, moi à Marseille, la vie des politiques n'était pas mon style de beauté. Mais donc si vous voulez, et aujourd'hui on veut changer de vie. Et on demande aux politiques de nous donner les cadres pour que ça soit possible. Et une des grandes batailles, c'est celle de la CFDT pour le sac à dos social. Je vais changer d'emploi, je vais changer de conjoint, je vais changer de région, je vais changer de conviction, parce que plus la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes. À n'importe quel âge, vous pouvez retenter votre chance. Regardez tous les retraités qui changent de couple, qui déménagent. 48% des retraités arrêtent de déménager pour aller dans leur région de vacances. Donc, on est dans une société de discontinuité. Mais il faut protéger la discontinuité, parce que sinon, c'est plus une chute d'escalier. Et c'est là où on a un énorme boulot à faire. Mais le modèle de l'après-guerre, où on visait à être marié, propriétaire en CDI, est un modèle qui n'était pas amusant. Moi, je rêve pas de l'après-guerre. Les femmes étaient à la maison à 50%. Excusez-moi, elles s'ennuyaient à mourir. On fait comme si c'était évidemment. Vous savez, on a créé 4,5 millions d'emplois depuis 75 dans ce pays. 3 millions pour les femmes, 1,5 million pour les garçons. Si on avait le même taux d'emploi féminin qu'en 75, il y aurait pas de chômage. Donc, à un moment, il faut bien comprendre qu'on est dans une révolution culturelle géniale. Et ça, il faut le dire. Il y a des problèmes.
Et on a aussi accentué la précarité à tous les étages.
Parce que le droit social, parce que
c'est pas forcément idyllique.
Les syndicats ne se sont pas adaptés. Et parce qu'effectivement, on dirait que changer de boulot est une catastrophe. Non, ça dépend comment ça se fait. Ça dépend si vous choisissez, ça dépend si vous gardez vos droits sociaux, etc. Regardez la durée. Un couple, en moyenne, se divorce à Paris avant 5 ans. Et 60% des bébés naissent en mariage. Ne rêvons pas. On est dans un monde où nous choisissons la discontinuité.
Voilà, je renvoie à l'un de vos livres, en tout cas, Une société si vivante. Il y a plein de chiffres. Vous adorez les chiffres, c'est incroyable. Vous calculez tout, vous. Tout. C'est évidemment aux éditions de l'Aube, puisque c'est votre édition. Il y a aussi Chronique française et Quand la Méditerranée nous submerge. Et puis un tout dernier ouvrage que je cite aussi, édité par la Fondation Jean Jaurès, Redessiner la France pour un nouveau pacte territorial. Jean Viard, c'est la fin de cette première heure. Vous restez avec nous. Puisqu'au téléphone sonne, on s'intéressera au tourisme, un secteur qui marche très fort. On se demandera si la France fait vraiment tout ce qu'il faut pour accueillir correctement les touristes. Vous pouvez nous appeler en tout cas au 01 45 24 7000 pour témoigner. Que vous soyez vous-même touriste, que vous en ayez un petit peu marre de voir trop de touristes. Enfin bon, tout est possible ce soir. Il est 19h pour l'instant.